Le congrès de l'UNIS 2024, les 10 et 11 octobre 2024 à Rennes, en partenariat avec Procivis, Axéo et Drieux-Combaluzier sur Radio Imo.
Eh bien, rebonjour les amis, il est 13h20 passé. Nous sommes toujours ici, seconde journée de l'édition 2024 du congrès de l'UNIS, Union des syndicats de l'immobilier. On est ravis d'être avec vous. Nous sommes ici à Rennes. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, il a fait l'aller-retour de sa Mayenne ici en pays breton, c'est Yannick Borde. Bonjour Yannick.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Très bien, ce matin, en pleine forme.
Voilà, un aller-retour, on est quoi ? Une heure de Saint-Berthevin.
Toute petite heure.
Ouais, une toute petite heure de Saint-Berthevin. Mmh. Yannick Borde, connu bien évidemment comme le patron du réseau Procivis, qui je le rappelle, premier réseau coopératif de promotion immobilière, mais pas que, de services immobiliers. Une kyrielle d'entreprises très ancrées dans les territoires. On a passé d'ailleurs un excellent moment, puisque nous étions ensemble à Montpellier pour le congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Vous êtes également un élu local, puisque vous êtes maire de Saint-Berthevin. Alors, il n'a échappé personne. Je voulais qu'on se voit un peu pour commenter les contours de du projet de loi de finances. La première question, c'est une réaction plutôt enthousiaste, mesurée.
Alors enthousiasme, on n'ira pas jusque-là. Voilà. Même enthousiasme mesuré, on n'ira pas jusque-là. Donc,
ça donne le ton tout de suite.
Voilà. Non, ce qui est certain, c'est qu'entre le discours de politique générale du Premier ministre et puis ce qu'on a dans la première version du projet de loi de finances, enfin dans la version qui a été déposée du projet de finances 2025, on retrouve ce qui avait été suggéré, à peu près imaginé, entendu. Nous, ce qui nous satisfait, c'est qu'il y a à nouveau une répétition sur la volonté de trouver une évolution du prêt à taux zéro et donc le remettre sur tout le territoire. Le remettre, je pense, même si c'est pas très clair, mais dans les différents contacts que l'on peut avoir, on sent qu'il y a la volonté de travailler une solution sur la maison individuelle avec la volonté quand même de respecter la densification, des ambitions de densification. Donc il y a la remise en cause de ZAN, enfin les re-questionnements autour de ZAN. Donc tout ça, ça complexifie un peu le raisonnement. Mais je vois bien qu'on pourrait peut-être atterrir sur un prêt à taux zéro possible en maison individuelle à condition que le rapport entre la maison construite et le terrain soit limité à... Bon, c'est des petits calculs à faire pour qu'on voit la profondeur de tout ça. Mais en tout cas, ça a été réaffirmé. Donc nous, on le porte depuis des mois en disant que c'est quand même le point de départ d'une relance de la construction neuve pour permettre aux classes moyennes très largement de pouvoir réaccéder à la propriété. Donc on va se satisfaire de cette confirmation dans le PLF. Maintenant, on a à travailler avec les parlementaires pour... Je pense que c'est un sujet qui peut être assez transpartisan, comme on dit souvent aujourd'hui, pour arriver à remettre le prêt à taux zéro. On alerte juste sur un point, quelle que soit la formule trouvée, en espérant qu'elle soit bonne, c'est qu'on sait aussi derrière, sur ces modifications-là, qu'il y a une inertie bancaire assez forte. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils remodifient toute leur chaîne un peu informatique.
Enfin, inertie bancaire, parce qu'effectivement...
La chaîne de système d'information.
Je voudrais juste, pour pas qu'on fasse de la langue de bois politique, rappeler que l'extension du PTZ à toutes les zones et dans tous les logements, c'est juste ni plus ni moins de revenir à l'état d'origine.
C'est de revenir à l'état d'origine.
Non, mais c'est pas une annonce originale. Je veux dire, voilà.
Non, mais c'est une annonce c'est quelque chose qui marchait, qui a voulu être raboté.
Oui.
Principalement.
On est d'accord.
Enfin, faut se rappeler
d'accord.
Quand même que la principale motivation.
C'est pas un cadeau.
C'est on revient à 2023.
Merci.
Pas très vieux en plus.
Merci. Voilà.
Donc, non, mais faut se rappeler aussi que la seule motivation de rabot du prêt à taux zéro, elle a été portée par Bruno Le Maire à l'époque, c'était pour limiter la facture du fait de l'augmentation des taux. Là, on a déjà une détente des taux, donc pour l'État, ça peut être un peu moins douloureux que ce qui était annoncé en matière de coûts. Et puis, on voit bien aussi que c'est quand même un élément qui est solvabilisateur aujourd'hui majeur pour l'accession sociale à la propriété et qu'elle est très abîmée depuis qu'il n'y a plus ça. Voilà. Quand je parle d'inertie, c'est qu'on l'a vécu sur la modification qu'il y a eu en premier.
Ça va resolvabiliser un gros tiers de la prime accession.
Ouais,
c'est énorme.
Là où j'alerte, c'est qu'on sait très bien que dans les systèmes d'information bancaire, il y a une inertie informatique que je comprends. Hein, en plus, c'est pas du tout un reproche. C'est qu'on sait que ça. Donc, faudrait pas trop décaler, quoi. Voilà. C'est faudrait pas qu'on annonce ça dans le PLF, que ça soit voté ou que ça passe, et puis qu'on ait encore 3-6 mois avant que tout soit capable d'émettre une offre de prêt à taux zéro
dans les nouvelles conditions. Vous l'imaginez sous quel délai, là? Soyons pragmatiques.
Moi, je pense qu'il faudrait que...
Adoption du PTZ à l'extension de tous les territoires dans les conditions qui ont été fixées par le Premier ministre.
Alors, les conditions, il faut les préciser, notamment sur la maison individuelle, encore. Donc moi, je pense qu'il faut aujourd'hui que tous les groupes parlementaires, parce que s'il y a un sujet qui a fait consensus dans le législatif, c'est un peu le logement. Tout le monde a dit qu'il va falloir retravailler la question du logement.
Il était temps.
Il était temps, on est d'accord. Donc au moins, il faut maintenant qu'il transforme ça.
Mais Yannick, après ce désastre politique délétère, dont est responsable les gouvernements depuis Édouard Philippe jusqu'à Michel Barnier, qui finalement hérite d'une situation complexe. Au moins, on peut dire que c'est le seul Premier ministre dans ce cinquième gouvernement qui a fixé 6 points autour du logement, dont d'ailleurs le logement social, pour lequel, a priori, on ne voit pas grand-chose dans le projet de loi de finances.
Oui, je pense Yannick. Que tous les premiers ministres depuis 2017 n'ont pas tous vécu tout à fait le même contexte. C'est-à-dire que nous, ce qu'on regrette, c'est que depuis notamment le CNR Logement, c'est-à-dire depuis le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, qui correspond, alors il n'y a pas de lien entre le démarrage du quinquennat et la crise immobilière, mais qui correspond quand même au démarrage de la crise immobilière, que ce soit le gouvernement d'Elisabeth Borne ou après celui de Gabriel Attal, il n'y a absolument aucune mesure qui a été prise pour relancer... l'immobilier. Alors que sur la période Édouard Philippe ou Jean Castex, on n'était pas du tout dans le même contexte de logement. Donc on n'est pas du tout.
Là,
il y a eu. Il y a un retard, plus qu'un retard à l'allumage. Il y a eu un mépris par rapport à la situation, une absence totale d'écoute par rapport aux alertes. Il suffit de regarder le débat du CNR logement de avril-mai 2023. Hein. Tout a été mis à la poubelle, alors que tout ce qu'on ressort aujourd'hui, c'est dedans.
Oui, mais finalement, ça ne vous a pas étonné, parce que vous étiez déjà dubitatif à l'époque quand je vous avais interrogé. Ce qui démontre que vous aviez.
C'est plus que dubitatif.
Oui, voilà. Mais pour être très poli, finalement, j'apprends à faire de la politique moi aussi. Hein, mais alors justement, on va rentrer dans le sujet, vraiment dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, ProCivis, c'est vraiment la primo-obsession, l'ancrage territorial, la proximité des Français. Ce PTZ, pour vous, c'est une priorité absolue. Mécanisme de solvabilisation, mécanisme de resolvabilisation, à l'instar d'une politique de taux qui est en train de baisser. Donc finalement, enfin, on voit un peu d'indicateurs potentiels. Vous imaginez une reprise, vous, vraiment, sur la distribution et l'accession?
Alors si sincèrement, alors il va y avoir un petit phénomène de calage, parce que c'est toujours pareil quand on change une règle dans le logement, et notamment dans le financement, il y a un petit temps de recalage de tout ça. Mais aujourd'hui, il faut aussi qu'on prenne les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, soit on considère que la dette de l'État, finalement, c'est pas un problème, et puis tout continue à fonctionner. Moi, c'est pas ma vision.
Mais c'est pas possible, non, mais
c'est... Voilà, c'est pas ma vision. Certains, sans doute, pensent que ça peut être comme ça. Moi, c'est pas ma vision. Et donc aujourd'hui, il faut que l'ensemble de la profession cesse de ressortir l'ensemble des mesures qu'elle n'a pas obtenues depuis 2017, et il y en a un paquet évidemment, et donc mettre sur le dessus de la pile avec Valérie Létard et avec le Premier ministre les 2 ou 3 ou 4 sujets qui sont primordiaux. Celui de la primo-accession, c'est celui qui va redéclencher un petit peu les choses. Parce que d'abord,
Avec quoi
bah avec le PTZ. Okay. PTZ, plus combiné avec la baisse des taux, on était à plus de 3,5.
Pour vous, le PTZ, la baisse des taux, c'est le duo gagnant.
C'est le premier curseur qu'il faut absolument activer. Parce que d'abord, ça va permettre de faire sortir du parc social des gens qui vont pouvoir enfin accéder. Ça va permettre de redynamiser quand même une certaine...
Vous y croyez, ça, hein ?
J'y crois, ça a toujours fonctionné. Donc j'y crois, à une condition, c'est qu'on ne tarde pas trop, à une autre condition, c'est qu'on ne touche pas à tous les mécanismes de différé d'amortissement du remboursement du prêt à taux zéro, qui sont les éléments solvabilisateurs du prêt à taux zéro, et donc
Mais ça, c'est prévu, ça ?
Ça, ils n'ont pas prévu d'y toucher.
Ah bon ? C'est prévu de ne pas y toucher. Voilà.
C'est prévu de ne pas y toucher.
On est d'accord.
Et ce n'est pas la peine de vouloir réinventer des trucs, ça marche. Oui, on sait que ça marche.
Okay.
Et aujourd'hui...
On revient à ce qui existait.
On revient à ce qui existe avant. Les banques sont rodées aussi au scoring et à l'analyse de dossiers de ce type de montage. C'est simple et c'est connu. Normalement, il n'y a pas grande crainte à avoir sur une absence d'efficacité d'une telle mesure.
Deuxième sujet, RLS. Au revoir et merci.
Alors c'est vrai que dans l'annonce qui a été faite, il n'y a absolument rien sur le logement locatif social. Ce qui est quand même une vraie question.
Au revoir et merci.
Oui, ça va pas, à mon avis, il va falloir rediscuter.
Dans les 6 points de Michel Barnier, dans son discours de politique générale, on va renforcer le logement social.
Oui. Donc peut-être qu'il y a des idées de le renforcer différemment, mais aujourd'hui il est quand même financièrement abîmé, donc il va falloir le restructurer financièrement.
Abîmé parce qu'on a ôté les marges d'investissement aux bailleurs sociaux.
Bien sûr.
Je veux dire, le bailleur social n'est pas là pour faire du profit, on est d'accord. Bon. Il est là pour réinvestir. Et en fait, là, il n'est plus en capacité d'investir.
Il a vu sa situation fortement se dégrader sur ses capacités d'investissement.
MaPrimeRénov', la rénovation énergétique, il semblerait que le repoussoir du moratoire contraint entre 2025 et 2028, 2034, avec les 4 dernières lettres énergétiques sur les 7 concernées, il semblerait que on prenne pas le risque d'interdire les passoires énergétiques pour raison, effectivement, de besoin de location des Français, contre.
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que effectivement, dans la crise actuelle, si on continue...
Sur le calendrier, oui, d'abord. Sur le on va parler après des MaPrimeRénov et des fonds.
Sur le calendrier, je pense qu'il faut détendre un petit peu. Il faut trouver de la formule. Mais moi, je suis prudent quand même.
Donc vous dites OK,
okay
pour qu'on revoie le calendrier d'obligation au 1er janvier 2025 sur les étiquettes G impropres à la location.
Voilà, on est à l'UNIS, c'est Daniel Dubrun, le président, dans ses propos.
Un tiers du parc locatif, ne serait-ce qu'à Paris, par exemple.
Oui, le curseur, ça sera à fixer, mais par exemple, Daniel Dubrecht, la présidente de Nice, dans son discours de clôture, a parlé du cas particulier des copros. Une copropriété qui a décidé de son plan de travaux, mais que pour différentes raisons, l'inertie fait que on le décale de 1 ou de 6 mois ou de 1 an, et que dedans, il y a des logements qui sont concernés par les étiquettes énergétiques. Ceux-là, on ne les sorte pas. Ouais, voilà, on est dans le plan de travaux.
Ce qui est le cas de 90% des dossiers.
Donc ça, je pense que ça peut être le cas. En toute transparence, ça avait déjà été un peu évoqué avec le gouvernement précédent, qui voyait aussi arriver qu'il fallait peut-être...
Et pour ceux qui sont déjà locataires d'un appartement en étiquette G,
La précarité...
qui pourrait demander aux propriétaires de les enjoindre de faire les travaux comme c'est prévu.
Moi, je pense quand même que la précarité énergétique, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter. Donc, effectivement, il y a MaPrimeRénov', on va peut-être en dire un mot parce qu'elle est un peu abîmée aussi à nouveau dans le budget. Mais il faut quand même continuer d'être ambitieux là-dessus. Donc, détendre le calendrier peut être une chose, repousser certaines interdiction peut-être être un curseur. Maintenant, quand on a une étiquette G, je pense qu'il ne faut quand même pas exagérer non plus. Donc peut-être que c'est les FEE qu'il va falloir détendre un petit peu, leur laisser un peu de temps. Par contre, le G, c'est quand même la grosse passoire thermique. Donc pour le locataire, c'est un petit sujet. Alors, dans la crise du logement, on peut toujours se dire c'est mieux que rien d'être en passoire G. Mais il faut peut-être pousser un peu plus les propriétaires de ce type d'appartement.
Budget, MaPrimeRénov', raboté. On est à combien en volume maintenant là, sur l'année ?
Alors on est un peu perdu parce que en fin de compte sur MaPrimeRénov', il y a les budgets, il y a la réalisation, il y a les rabots qui arrivent en cours d'année.
Vous avez réussi à décrypter parce que moi je ne suis pas arrivé à décrypter.
Ce que j'entends, c'est qu'entre le budget 2024 et le budget 2025, on est à moins 1 milliard. Donc on avait 2 milliards et demi sur le budget 2024, je suis pas sûr.
Alors moi j'avais compté 1 milliard et demi de baisse, mais bon, 1 milliard...
Apparemment on attend 1 milliard. Aujourd'hui, ce qui est clair, sur bon d'abord...
C'est pas un signal, on va dire, tip-top pour engager cette vaste rénovation énergétique tant voulue par les Français, par les directions, par la transformation de l'habitat.
Ce qu'on voit bien quand même, c'est que quand on repose beaucoup de politiques importantes quasi exclusivement sur de l'argent public... On est en permanence sujet au stop and go, au yo-yo, et on s'en sort pas.
Mais comment on fait pour les Français qui n'ont pas les moyens de rénover chez eux ?
Alors sincèrement, sur cette question-là, ça fait très longtemps que le réseau Procivis, à travers ses missions sociales, à travers des expertises diverses, sur lesquelles je ne reviendrai pas, ce serait un peu long, mais on travaille sur cette question-là. Ça fait 2 ans qu'on a une copie nous, qui est assez prête, qui est une copie sans plus d'argent public. Alors je ne sais pas s'il faudra 2 milliards de MaPrimeRénov' ou 1 milliard et demi. C'est de créer un outil spécialisé sur le financement de la rénovation énergétique. Beaucoup de gens ont notre proposition aujourd'hui.
C'est quoi, une banque ?
Une banque spécialisée.
Une banque spécialisée.
Un établissement spécialisé. Ça serait trop long de rentrer dans le détail parce que on aura l'occasion d'en reparler.
Vous voulez créer un véhicule ?
Politiquement, il existe presque. Il suffit qu'à un moment donné, quelques-uns acceptent d'appuyer sur un bouton pour qu'on puisse enfin complètement optimiser la politique publique, parce qu'autant je suis critique sur la politique publique qui a été conduite depuis 2017 sur la construction neuve, autant on m'avait toujours entendu dire qu'il y a eu des vraies inflexions sur le parc existant, un peu abîmées par les stop and go, les allers-retours, les machins qui bougent sans cesse et auxquels on est un peu perdu. Mais en tout cas, sur cette position-là, nous, on ne sera pas critique sur ce qui a été fait depuis 2017, à part parfois la méthode. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs dans lesquels nous ne sommes pas les seuls à avoir planché sur cette question-là en disant est-ce que ce n'est pas un sujet quand même qui mérite d'être plutôt traité par un établissement de place bancaire partagé, plutôt que chacun réinvente le truc, chacun se remettre à réimaginer des choses qui sont très compliquées à faire fonctionner. Il y a 2 cas très particuliers, il y a le financement individuel, c'est-à-dire celui qui a sa maison, etc., où là on pourrait se dire les banques traditionnelles devraient faire, mais moi je les interroge un peu provocantes, en disant mais pourquoi elles n'ont pas réussi à faire depuis tout, à massifier le financement de la rénovation énergétique. Et puis il y a la particularité qui n'existe, où l'offre bancaire est totalement insuffisante, et quand elle existe, elle est encore un peu trop faible et assez peu professionnelle, je ne vais pas nécessairement me faire que des copains en disant ça, c'est le financement des syndicats de copropriété. Et là aujourd'hui, les gouvernements précédents et celui d'aujourd'hui ont notre copie sur la table, Les établissements bancaires, pour la plupart, ont notre copie sur la table.
Vous ne craignez pas qu'un outil bancaire exclue dans la nomenclature des foyers qui n'auront de toute façon pas accès au crédit normalement ?
La copie, elle s'appuie sur l'expertise du réseau Procivis sur ses missions sociales, qui a pour vocation notamment à traiter tous les propriétaires occupants qui sont sous les plafonds de ressources ANA.
Ah d'accord.
Sous les plafonds de ressources ANA.
Y compris les foyers modestes.
Donc d'abord les foyers modestes. Celui qui n'a pas de problème bancaire...
On est d'accord, mais merci de le dire. Merci de le dire. Parce qu'en réalité, le vrai sujet, ce n'est pas ceux qui ont les moyens de le faire, Yannick Borde.
Pas de problème sur ceux qui ont les moyens de le faire.
Mais absolument. Et on a une masse de propriétaires incroyables qui n'arrivent pas à faire les travaux et qui voudraient le faire. Est-ce que vous partagez ce constat ?
Bien sûr.
Qu'il y a une vraie volonté des Français de vouloir le faire.
Donc nous, on a modélisé ça depuis 10 ans sur nos fonds propres, nos ressources. C'est notre engagement. C'est la convention que j'avais signée en tant que président du réseau avec le ministre en janvier 2013, où on s'engage, nous, sur notre propre activité, on va dire, à y consacrer 500 millions sur 8 ans. C'est beaucoup pour nous, parce que c'est une entreprise qui le fait, c'est énorme. Sauf que ça fait 70 millions par an, par rapport aux besoins, ça reste relativement modeste.
Oui, mais enfin,
donc, comment est-ce qu'on peut, nous, demain, proposer de passer à une massification, une industrialisation de ce dispositif
qu'on
a maîtrisé ?
Vous voulez dupliquer votre méthode ?
On veut le transférer,
avec l'ensemble de l'écosystème, vos confrères.
L'ensemble de l'écosystème financier qui a...
Ah, c'est plutôt bien pensé.
Voilà. Donc la copie, elle existe, elle est diffusée dans là où il faut qu'elle soit diffusée.
Est-ce que vous partagez l'idée que... Il faut de toute façon payer. Il faut que les foyers payent. Il y a un sous-jacent dans ce que vous dites, c'est on ne peut pas faire que des cadeaux aux Français en disant voilà, rénover, puis ça vous coûtera zéro. Parce que c'est ça l'idée, en fait, aussi.
Oui, mais ça ne marche pas.
Il faut qu'il y ait une contribution.
Par contre, elle est graduée suivant la situation.
Oui, on peut le faire sur du temps très long.
On peut le faire sur du temps très long. Il y a aujourd'hui pas mal de collectivités locales, profitons-en parce que ça ne durera peut-être pas, qui ont aussi mis en place des dispositifs d'accompagnement sur le logement, en plus de ceux de l'État. Nous, on a développé une expertise sur le préfinancement de toutes les aides publiques, qui est un petit sujet quand même que beaucoup de gens ont essayé de faire. Personne n'a vraiment réussi. Donc comment est-ce qu'on passe de notre mode à nous, qui est limité par notre capacité, à quelque chose qui est partagé par une place financière et par un État, et à industrialiser et massifier. Et le financement du reste à charge, c'est un petit peu près la même chose. Effectivement, quand vous êtes à l'aise, c'est un non-sujet. Quand vous êtes un peu plus juste, ou que vous venez d'acheter, ou il se passe autre chose, c'est un petit peu plus compliqué.
C'est toujours un plaisir de partager ça avec vous. Et d'ailleurs, je trouve que l'idée est extrêmement intéressante. Et en plus, elle ne coûterait pas grand-chose à l'État. Donc...
Notre projet, il est à minima sans argent public supplémentaire. S'il faut réduire l'argent public, on saura trouver une solution.
Je pense que vous aurez une oreille favorable. Merci Yannick Borde. Je rappelle que vous êtes le président du réseau Procivis ancré dans les territoires. Également un élu local, puisque vous êtes le maire de Saint-Berthevin. Bon retour en Mayenne.
Merci.
Le congrès de l'UNIS 2024, les 10 et 11 octobre 2024 à Rennes, en partenariat avec Procivis, Axéo et Drieux-Combalusier sur Radio Immo.